Lundi le 15 octobre 2018, déjà mon nom est Claude Blas, c'est un plaisir d'être là les lundis pour vous accompagner à l'émission Les Voix de Service Magazine. Et je vous rappelle par le fait même que cette émission est en direct du lundi au vendredi, donc avec différents collaborateurs, toujours à 9h le matin et naturellement en rappel dans la soirée. Alors, différents articles à lire encore ce matin. C'est la mission, n'est-ce pas? Et pour vous aider, pour nous aider en fait à le faire, tout d'abord, on va aller rejoindre tout de suite Franceline Nieuviard. Comment allez-vous?
Oui, ça va bien. Merci. Bonjour.
Bonjour.
Et moi, les articles, je les ai pris les deux dans le journal Itinéraire du 1er octobre 2018. Et dans ces temps où on parle surconsommation, empreinte écologique, responsabilité citoyenne, je vais vous lire un article qui s'appelle « Le bâtiment 7 veut fabriquer de l'autonomie collective ». Et bon, vous verrez de quoi il s'agit, je vous laisse la surprise pendant quelques secondes encore. Et ensuite, je vous lirai un article intitulé « Se baigner dans un cimetière », c'est la chronique de Yannick Marcille dans l'itinéraire donc, du 1er octobre 2018.
Parfait, merci beaucoup. Et à ma droite, on retrouve Roger à passer de belles vacances, j'espère.
Oui, excellente, excellente. Ça fait du bien.
Ça fait du bien.
On se ressource.
Ah, voilà.
Alors, ce matin, on est en pleine forme aujourd'hui. Ouais, pour vous parler, j'ai deux sujets à vous présenter. D'abord, un sujet assez sérieux. Faut-il désarmer la police? On prend ça pour acquis que la police doit être armée, mais il y en a qui pensent qu'il faudrait peut-être leur enlever l'arme qu'ils porteraient à la ceinture.
Une grande question, quand même.
Grande question, oui, c'est ça. Ça, c'est dans la revue Relations. Et ensuite, un sujet intéressant.
Oui.
Une vie de chat. Mais pas n'importe laquelle vie de chat. Une vie de chat de pacha qui vivent dans des cafés.
Vous n'avez pas retrouvé ça sur Facebook, entre autres, non?
Non, non.
Parce qu'on parle beaucoup de chats sur Facebook.
Ah oui? Sélection de jeux. Non, il n'y a pas beaucoup de photos dans mon article, non.
Ah, d'accord. Non. Alors, on vous revient dans quelques instants. Moi, c'est vrai. Moi, de mon côté, je vous parle, je vous lis un article, naturellement, en deux temps, en fait, en deux parties de l'émission. Et le titre, c'est « Quand la horte se déchire, la horte, c'est la fameuse veine principale. »
Une artère.
Une artère, oui. La veine, oui. La grande veine. Mais une artère principale, oui, effectivement, du corps. Alors, c'est un papier de Alain Vadeboncœur que j'ai retrouvé dans l'actualité. Voilà, dans quelques instants, on retrouve Franceline. Alors, Madame Franceline, à votre tour.
Alors, je vais donc lire « Le bâtiment 7 veut fabriquer de l'autonomie collective ». Le bâtiment 7 se situe, c'est un bâtiment qui se situe à Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal. Mm-hmm. Et le reportage a été réalisé par Camille Test du journal Itinéraire. Utopie devenue réalité, le bâtiment 7 est un entrepôt montréalais transformé en centre autogéré qui a longtemps été la propriété du Canadien national. Aujourd'hui, il accueille une multitude de projets créatifs et manuels. L'objectif, pousser les citoyens à se réapproprier un espace et des savoir-faire. Il aura fallu plus de 10 ans aux membres têtus du collectif 7 à nous pour obtenir, une bonne fois pour toutes, la propriété de ce vestige industriel de 90 000 pieds carrés. 10 années de combats acharnés pour faire naître ce lieu hors normes, expérimental et prometteur. Aujourd'hui, seule une partie est exploitée. Le reste doit encore être retapé, nettoyé, désamianté et mis aux normes. Mais déjà, le lieu fourmille d'idées, d'ateliers, de drôles d'objets et de gens de passage. Lorsque nous y allons, dit Camille Test, vers 17h un soir de semaine, il y a foule au 100 Taverne, le bar-brasserie du bâtiment 7. Il n'y a pas une table de libre pour s'asseoir. Le lieu est pris d'assaut par un public hétéroclite. Il y a des néo-hippies, des femmes chics en talons, 2 ou 3 hommes en costume, quelques familles, des vacanciers. On y parle plusieurs langues. La bière, brassée sur place, dans une pièce située juste derrière le bar, a le goût de Pointe-Saint-Charles, le goût de ceux qui ne lâchent pas, surtout pas, leurs idéaux. Pour se rendre compte de l'étendue du projet, il faut faire le tour de l'entrepôt. Un petit potager habille la façade qui se situe au sud, juste en face, un terrain vague, accueille quelques meubles et tapis de récupération. Ils ont été installés par un itinérant du quartier qui voulait apporter sa contribution. Sorte de salon d'été, le lieu a un peu l'air d'un espace branché du Myland. À l'arrière, caché de tous, on trouve quelques ruches. Juste à côté, une quantité de gravats rappelle que le lieu est encore en pleine mue. En continuant en direction de la façade nord, on aperçoit une énorme caisse en bois qui abrite des grillons d'élevage comestibles. Ils se mangent rôtis ou en farine. Ils ne sont pas là par hasard parce que leur production génère bien moins de gaz à effet de serre que l'élevage de bêtes traditionnelles. Ils sont considérés comme des protéines du futur. De quoi plaire à l'équipe du lieu, elle qui veut donner l'exemple de repenser l'avenir. Encore quelques pas et c'est l'entrée du garage communautaire. Ici, ceux qui le veulent peuvent travailler eux-mêmes sur leur véhicule. Notre passage est bref, la jeune femme en plein exercice de mécanique n'a pas le temps de jaser. Retour à l'entrée. On s'arrête au Détour, qui est l'épicerie du bâtiment 7. En apparence, elle a tout d'un commerce de quartier classique. Lise Ferland, bénévole à la caisse, nous explique le contraire. Ici, ce sont les citoyens qui font tourner la machine. L'épicerie fonctionne grâce à ses membres, qui sont environ 185 pour le moment. Chacun doit faire 3 heures de bénévolat par mois. Le système présente au moins 2 avantages. C'est une manière d'économiser la main-d'œuvre et donc de proposer des prix bas, mais aussi de garder un œil sur ce que l'on vend, explique cette retraitée impliquée dans le combat du B7 depuis plusieurs années. Dans les rayons, on trouve des produits variés, mais pas toujours locaux ni forcément biologiques. L'équipe voudrait mieux faire, mais pas à n'importe quel prix. On ne veut pas être une épicerie de niche, au contraire, on veut que le monde puisse se nourrir correctement. On a des clients qui ont de l'argent et d'autres qui en ont moins. Succès garanti dans un quartier populaire qui, jusqu'alors, avait tout d'un désert alimentaire. Comme au garage ou dans la petite épicerie, la plupart des projets présents au B7 veulent pousser les citoyens, à commencer par les gens du quartier, à reprendre le contrôle de certains aspects de leur vie. Pour mieux comprendre cette philosophie, il faut flâner de pièce en pièce à l'intérieur du bâtiment. Nous y pénétrons par l'entrée principale. Un groupe d'enfants squatte le coin jouet. Leurs parents feuillettent quelques ouvrages pris dans la petite bibliothèque située juste en face. À quelques mètres, une jeune femme, assise à l'accueil, nous invite à nous promener au rez-de-chaussée ou à monter flâner à l'étage. Le lieu est ouvert, les visiteurs chez eux. Nous passons devant l'atelier vélo, qui met à disposition des outils et permet à ceux qui le veulent d'apprendre à réparer leur bicyclette. Puis nous rejoignons l'atelier bois situé un peu plus loin. Là, nous rencontrons Marcus Tissier, qui est l'un des utilisateurs responsables de l'atelier et membre actif du bâtiment 7. Ce trentenaire souriant sera notre guide pour le reste de la visite. Il nous explique le fonctionnement de l'atelier. Il dit « Ici, il y a des plages horaires » pour les utilisateurs ponctuels. S'ils sont débutants, ceux-ci peuvent réserver et pour prendre un cours. Ce n'est pas très cher, car nous voulons que ce soit accessible, insiste-t-il. Une fois que les participants ont un peu d'expérience, ils peuvent obtenir un genre de certification auprès de nous et accéder au local quand ils le veulent. Pour Marius, ces ateliers sont un moyen de pousser les gens à reconsidérer le travail manuel. Les gens pensent qu'ils ne sont pas capables, ou alors ils n'ont pas les outils ou l'espace. Avec cet atelier, je veux qu'il réalise toute la richesse que représente le travail du bois et le fait de fabriquer avec ses mains. Pour la suite de la visite, Marcus nous conduit à l'étage où se trouve une importante salle commune meublée avec des meubles de récupération. Alors à cet étage, je vous saute un petit peu l'article, mais je vous dis de quoi il s'agit. On y trouve différents projets, celui de « À notre mesure » qui ambitionne de créer des chaussures responsables avec Daniel Le Brasseur, « La Coulée » qui est un atelier de soudure avec Marcus Tissier, une salle d'arcade tenue par les jeunes du quartier, un espace informatique, la chambre noire pour les passionnés de photographie, l'atelier de sérigraphie et il y a d'autres projets en tête. Dans les années à venir, d'autres espaces verront le jour dans le bâtiment 7, à commencer par une maison de naissance et un centre de la petite enfance de 80 places. Voilà. L'objectif est simple, donner aux citoyens ce dont ils ont besoin pour une vie simple, écologique et désaliénée. On est vraiment une fabrique d'autonomie collective, insiste Marcus Tissier. On a l'intérêt collectif en tête continuellement. Pour preuve, ici on considère que tout le monde est un peu propriétaire. Longtemps, toutes les personnes impliquées ont douté qu'un projet aussi ambitieux puisse voir le jour. Mais depuis son inauguration, il y a quelques mois, je crois que c'était le 7 mai 2018, L'espoir, donc, est revenu. C'est un peu une première au Canada, se réjouit-il. Le bâtiment 7, c'est la preuve qu'on peut encore faire pencher la balance. C'est ça qui nous fait carburer, qui fait carburer l'initiative et l'enthousiasme. Bien sûr, personne ne va virer riche, mais il y a une richesse de temps, d'espace et de personnes qui est fabuleuse. Alors, si vous voulez aller voir ce bâtiment 7, il se trouve au 1900 rue Lebert à Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est dans le sud-ouest de Montréal. Et donc, c'est un centre autogéré par des groupes communautaires.
Une belle façon de récupérer des endroits qui sont déserts.
Hein? Oui, et puis qui sont bien impliqués dans le quartier maintenant. Oui,
tout à fait. Merci beaucoup, Franceline. Dans quelques instants, on retrouve Roger avec son premier article « Faut-il désarmer la police? » Alors, mon cher Roger, à votre tour.
Oui, la question est posée. Faut-il désarmer la police? C'est Relations, le magazine d'édition du mois d'août, qui publie deux textes sous forme de débat. Deux auteurs se sont penchés sur la question. Voici en partie ce qu'ils écrivent. Francis Dupuis-Derry est prof à l'UQAM et dit que la police n'a pas besoin d'être armée. Dans certains pays, d'ailleurs, les unités de patrouille n'ont pas d'armes à feu, comme en Grande-Bretagne et en Norvège. Or, selon plusieurs des chefs de police québécois interviewés pour le livre « Désarmer la police », un débat qui n'a pas eu lieu, écrit par Yves Dubé et Lynn Beauchesne, ce modèle ne serait pas adapté à l'Amérique du Nord. C'est encore cet argument culturaliste qu'avançait en 2017 l'ancien chef du service de police de la ville de Montréal, Philippe Pichet, lors de la présentation de son bilan annuel à l'Hôtel de Ville. Pourtant, pour ne prendre que cet exemple, qui sait que les agents de la police provinciale de Terre-Neuve n'ont été armés qu'à partir des années 90 en réponse aux revendications de leur fraternité qui disait s'inquiéter pour la sécurité de ses membres. Or, d'autres agents rappelaient alors que le seul policier tué par balle à Terre-Neuve était un agent de la GRC en 1964. Il avait tenté d'appréhender des évadés de prison qui l'ont abattu avec son arme de service. Quant au dernier agent de la police de Terre-Neuve tué en service, l'affaire remonte à 1959. Il avait succombé à un coup de bâton reçu lors d'une charge contre une ligne de piquetage tenue par des bûcherons et leurs familles. Parlant de bûcherons, des chefs de police québécois cités dans le livre « Désarmer la police » avançaient un autre argument pour refuser de désarmer les unités de patrouille. L'arme de service fait partie de l'identité de la police, comme la hache pour le bûcheron. Alors, Francis Dupuis-Derry dit que la comparaison avec le bûcheron manque un peu de logique, dans la mesure où les policiers utilisent rarement leur arme, contrairement au bûcheron. D'ailleurs, la police du Québec n'est presque jamais impliquée dans des fusillades contre de vrais criminels. Les bilans annuels du SPVM indiquent que la police ne tire en une année que quelques coups de feu lors d'un ou deux événements. Il ne faut donc pas se laisser berner par les films et les séries télévisées ayant pour héros des policiers qui tirent des centaines de coups de feu pour sauver leur famille, leur ville ou sauver même la planète. Or, au-delà des arguments pragmatiques, le livre « Désarmer la police » révélait surtout que l'obsession des chefs de police pour l'arme de service relève d'un « power trip » et d'une conception machiste de l'identité policière sans lien réel avec la sécurité des troupes et la lutte contre la criminalité. Dans un article publié dans Le Devoir au mois d'avril 2018, Jeanne Corriveau se demandait s'il fallait désarmer les policiers et rappelait qu'au Québec, 14 personnes ont été atteintes gravement ou fatalement par des balles tirées par des policiers en 2015, alors qu'en 2016, ce sont 11 individus qui sont morts et 8 qui ont été blessés par des tirs policiers. Elle ajoutait que depuis 2000, 42% des personnes tombées sous les balles des policiers souffraient de problèmes de santé mentale et 45% montraient des symptômes d'abus de drogue ou d'alcool. Bref, il semble qu'une police armée représente une menace mortelle pour les citoyens souvent les plus démunis de notre société. C'est particulièrement le cas dans un contexte où on assiste par ailleurs à une militarisation croissante de l'arsenal et des tactiques de la police. Pour sa part, l'autre auteur qui débat de la question dans la relation toujours du mois d'août, il s'agit de Céline Bellot. Elle écrit que la question exprime l'avis que, idéalement, le désarmement de la police serait souhaitable, mais ce qu'il faut surtout dans le contexte nord-américain, c'est assurer un bien meilleur contrôle de l'activité de la police. Pour elle, force est de constater que les contrôles internes et externes qui existent ne sont pas parvenus à transformer de manière profonde la culture policière. Elle écrit, entre autres, si je peux tomber sur mon texte, « Au quotidien, les dérives et les abus du pouvoir, notamment à l'égard des populations marginales et ou dissidentes, se perpétuent sans que les contrôles instaurés, après coup, modifient réellement les pratiques. Il s'agit pourtant d'un enjeu crucial. En effet, le fonctionnement exemplaire des organisations policières demeure un des baromètres essentiels de l'état de notre démocratie et, par extension, de la confiance des citoyens à l'endroit de leurs policiers et de leurs services de police. Dans ce contexte, l'urgence d'agir est réelle pour établir un vrai contrôle civil des organisations policières et du travail policier, non pas simplement en cas de problème, mais bien en amont, en exerçant une vigilance constante. » Alors, on voit deux points de vue. D'abord, celui de M. Francis Dupuy-Déry, qui, lui, est catégorique. Il faudrait enlever les armes aux policiers, désarmer la police. Alors que l'autre dit, mais dans le contexte nord-américain surtout, c'est peut-être difficile d'aller jusque-là, mais il faut au moins exercer un bon contrôle, quoique elle semble dire qu'il faudrait aussi les désarmer, mais que ce serait probablement difficile. Alors, à vous de vous faire une idée sur la question.
Un grand débat.
Un grand débat, oui.
Oui, tout à fait. On s'en va à la pause musicale et tout de suite après, je vous reviens avec une première partie de texte « Quand la horte se déchire ».
You know that I won't be your man. Why you plus récent extrait de Paul McCartney. Ça s'intitule I Don't Know de son album qui est sorti il y a quelques semaines.
Quand la horte se déchire, c'est un papier que j'ai retrouvé dans l'actualité du docteur Alain Vodebonker du 12 octobre dernier, donc un article assez récent, et il écrit ce qui suit. L'ambulance grimpe rapidement la rampe d'accès pour s'immobiliser juste devant l'urgence où nous l'attendons depuis quelques minutes. Sitôt les portes ouvertes, tout le monde comprend la gravité de la situation. La patiente est atrocement souffrante, son visage pâlit à vue d'œil et son front est couvert de sueur. Le paramédic me regarde d'un air entendu en me tendant l'électrocardiogramme et c'est marqué « un gros infarctus ». Docteur, le tracé montre l'image caractéristique. Nous roulons la patiente vers la salle de choc pendant que je lui pose les questions d'usage. « Vous avez mal où, madame? » « Dans le dos. » « Et c'est terrible. » « Dans le dos? » Comment tout ça a débuté? D'un coup, elle dit, je regardais la télévision et bang, le mal est arrivé. C'est très inhabituel comme douleur d'infarctus. Il faut redoubler de prudence. Une fois rendu en salle de choc, j'examine son cœur, ses poumons, le ventre, pendant que la préposée installe un moniteur cardiaque et que les infirmières cherchent une veine pour brancher leur soluté. Je veux ensuite vérifier si les bras bougent bien. Alors je dis à la dame, « Levez vos bras. » Elle me dit, « Je ne peux pas. » »« Vous pouvez pas quoi ?»« Bougez le bras droit. » Le gauche lève aisément, mais le droit reste complètement immobile. Un AVC, est-ce ça ? Le visage et la jambe bougent bien par contre. Je remarque la pâleur de la main droite. Je palpe le pouls de ce côté. Et rien, le sang ne circule pas dans ce bras. C'est bien plus compliqué qu'un simple infarctus. On lui donne de l'héparine, un médicament qui éclaircit le sang. Non, on ne donne rien d'autre. Appelez-moi l'hémodynamicien en stat immédiatement, s'il vous plaît. Ça ne peut être que ça, une dissection de l'aorte thoracique, compromettant à la fois la circulation de l'artère coronaire droite et celle du bras droit. On pourrait aller examiner l'aorte au scanner, mais en raison de l'infarctus massif, la patiente est trop instable pour cela. « Alain, c'est les mots. Passe-le-moi. Salut, c'est Philippe. J'ai une patiente en infarctus aigu, mais je pense qu'elle dissèque. » Il dit « Pourquoi? Pas de pouls à droite. Tu l'envoies en scan? Non, elle est trop instable. On devrait faire l'examen en hémo. Si c'est un infarctus, tu pourras dilater. » « OK, ça va. On est prêt dans 5 minutes, » dit-il. Je lui fais donner du fentanyl pour atténuer la douleur. Après quelques explications rapides, nous la menons jusqu'en hémodynamie. En quelques minutes, le cardiologue monte son cathéter et injecte le colorant dans l'aorte. Sur l'écran où nous suivons le tout de l'autre côté de la vitre plombée contre les radiations, l'image qui apparaît est claire. La paroi de l'aorte est déchirée, jusque dans une coronaire d'une part et dans l'artère du bras d'autre part. Le chirurgien est entre-temps accouru et sa réaction calme ne laisse aucun doute. Il dit « OK, je fais préparer la salle d'opération. » Quelques minutes après, la patiente est endormie au bloc opératoire. Le chirurgien ouvre le sternum avec une scie. La circulation extracorporelle est démarrée. Le cœur est arrêté. La déchirure est localisée et le saignement d'aorte est remplacé. Et le pouls revient dans le bras et l'infarctus se résout de lui-même. Le lendemain soir, quand je retourne voir la patiente aux soins intensifs, elle me gratifie d'un sourire. Elle a retrouvé toutes ses couleurs. Comment mieux comprendre la dissection aortique? Si vous savez déjà que l'aorte est la plus grande artère du corps et qu'elle transporte tout votre sang oxygéné, vous n'aimerez sans doute pas apprendre que sa paroi peut se déchirer. On appelle cette urgence majeure une dissection aortique. Mieux vaut en connaître les symptômes, parce que cette maladie très rare est aussi une des plus graves urgences médicales qui soit. Lorsque ce tuyau se déchire, la personne ressent une vive douleur thoracique, habituellement en avant et la moitié du temps dans le dos. Cette douleur intense et soudaine, littéralement une sensation de déchirure, peut être accompagnée d'une foule d'autres symptômes. La personne ressentira parfois des douleurs dans d'autres régions du corps, entre autres le cou, les bras, le ventre, les jambes, en fonction de l'emplacement et de l'extension de la déchirure qui peut suivre le trajet du vaisseau. N'importe quel vaisseau branché à l'aorte peut être touché. les artères coronaires qui nourrissent le cœur, brachiales qui nourrissent les bras, carotidiennes qui nourrissent le cerveau, rénales et qui abreuvent les reins, de même que les artères abdominales et celles des jambes. Les symptômes correspondent alors à l'atteinte de l'organe observé si le sang ne lui parvient plus. Un AVC peut accompagner cette fameuse dissection. Alors voilà, c'est la première partie de cet article du docteur Alain Vaudeboncœur de l'actualité. Et j'aurai en prime, c'est une prime, oui, j'aurai la deuxième partie dans la deuxième demi-heure de l'émission. Mais pour l'instant, on s'en va à la pause. Et tout de suite après, ouais, on a encore du temps. Ouais, on a encore une minute. Oh, on a le temps pour une petite brève, Franceline, allez-y.
Oui, eh bien, un cadeau de vie. Avec la récente création du programme québécois de dons vivants et son financement récurrent de 1,5 million de dollars par année, le gouvernement espère réduire la liste des 519 patients en attente d'une greffe de rein au Québec. Sachant que la durée de vie d'un rein provenant d'un donneur vivant environ 20 ans est bien supérieure à celle d'un greffon d'une personne décédée 12 ans, il s'agit d'une excellente nouvelle pour les gens souffrant d'insuffisance rénale terminale. Objectif visé par ce programme, doubler le nombre annuel de 50 transplantations de reins par don vivant.
Merci beaucoup, on s'en va à la pause et on part vers la deuxième partie de l'émission.
You are the one for me. For me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Un autre succès indémodable du regretté Charles Aznavour, formidable.
Ouais, c'est formidable, effectivement. Merci beaucoup pour ce souvenir, en fait, et en même temps, se souvenir un peu du bonhomme. Hein? Oui, tout à fait. Merci. Franceline, on est rendu à vous pour la deuxième partie de l'émission.
Oui, alors mon article s'intitule « Se bénit dans un cimetière ». C'est la chronique de Yannick Marcil dans le journal itinéraire du 1er octobre 2018. Cette année, en Europe, on a moins entendu parler de la soi-disant crise migratoire qu'au cours des derniers étés particulièrement meurtriers. Au 12 septembre de cette année, l'International Organization for Migration, IOM, avait compilé plus de 2500 migrants morts en essayant de rejoindre une terre d'asile, contre près de 4500 en 2017 et 5200 en 2016 à pareille date. De ces malheureux 2500, de ces malheureux, 2546 décès cette année, près de deux tiers, 1565, ont eu lieu en Méditerranée. Chacune de ces morts constitue une tragédie sans nom. Nous avons le devoir de garder constamment à l'esprit que ces hommes, ces femmes et de nombreux enfants quittent leur maison, leur communauté et leur pays parce qu'ils sont en danger de mort. Qu'ils ont parfois utilisé toutes leurs économies pour payer des passeurs sans scrupules dans l'espoir d'être en sécurité et éventuellement avoir une vie meilleure. Payer de sa vie simplement parce qu'on désire obtenir le strict minimum, la sécurité et un toit, est tout simplement insensé dans un monde qui se dit civilisé. Un peu partout en Europe, en France, en Italie, en Hongrie et Pologne notamment, on constate encore cette année des mouvements d'opposition à l'immigration, malgré une réduction très marquée du nombre de réfugiés. Une partie de cette opposition est légitime et civilisée et s'exprime au sein de partis politiques traditionnels. Malheureusement, elle prend également le visage de la haine et de la violence les plus abjectes. Des groupes aux idées fascisantes, quand ils ne sont pas carrément néo-nazis, s'expriment de manière de plus en plus décomplexée dans les rues et sur le web. Pire, des partis d'extrême droite, et là aussi dans certains cas néo-nazis, ont fait leur entrée dans certains parlements et ont même des représentants au pouvoir. La situation chez nous est beaucoup moins préoccupante. Ces idées intolérantes sont véhiculées par des groupuscules sans grande influence. Malheureusement, les médias leur donnent une visibilité démesurée et favorisent bien malgré eux, évidemment, la diffusion de leurs idées dans l'espace public. Il s'agit d'un casse-tête pour notre vie en commun. Informer le public est le devoir des médias. Mais en accordant de l'importance à des idées extrêmes et marginales, on force les commentateurs et les politiciens à y réagir. Sournoisement, elles peuvent s'immiscer dans des versions plus édulcorées, au cœur même des programmes politiques ou des revendications de groupes sociaux respectables. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays d'Europe, petit à petit, au cours des dernières années. Si le Québec n'en est pas là encore, nous devons toutefois être vigilants face à ce danger. Si la question de l'immigration en général et des réfugiés en particulier soulève la passion hargneuse de certains petits groupes d'extrémistes et qu'elle s'immisce dans le discours ambiant, son spectacle tragique est paradoxalement accueilli avec une grande indifférence dans la majorité de la population. Difficile de déterminer lequel des deux phénomènes est le pire. L'indifférence face à cette terrible tragédie est en tout cas profondément affligeante. Comment peut-on, en toute conscience, constater jour après jour la mort de ces milliers de personnes sans réagir concrètement? Bien sûr, plusieurs d'entre nous s'indignent, d'autres s'impliquent activement et parrainent même des familles réfugiées. Mais de manière générale, on laisse passer. C'est une information parmi d'autres au téléjournal, entre les résultats d'une partie de hockey et les travaux qui rendent la circulation automobile invivable. Au sud de l'Europe, les vacanciers cet été ont envahi, comme à leur habitude, les plages méditerranéennes, sans se soucier de ces milliers de personnes qui se sont noyées à quelques kilomètres d'eux. Ils se sont baignés dans un cimetière marin, indifférents à l'ignoble tragédie qui est à son origine. Voilà donc « Se baigner dans un cimetière », écrit par Yannick Marcille.
Ah, quand même un bel article. Ouais. Merci beaucoup, Franceline. On vous revient dans quelques instants avec Roger. Alors, Roger, si je vous disais miaou...
Oui, une vie de chat.
Ouais.
C'est dans la même veine que tous les textes qu'on vient de lire. Là. De l'émission, c'est très sérieux.
Oui.
Une vie de chat. Oui. Non, ça va peut-être alléger un peu l'ambiance.
Merci, Roger.
désarmera pas la police ce matin. Nous sommes vendredi après-midi à Paris. Et la douzaine de tables du Chat Malose Café commence à se remplir. On entre doucement, en chuchotant, comme le veut la consigne. Certains des 16 chats de l'établissement d'hommes, il ne faudrait pas les réveiller. À quelques exceptions près, la clientèle est surtout féminine. Installés à une table près de la fenêtre, Chloé Lardy et Maxime Lamoureux s'attendrissent devant une boule de poils ronronnant dans un hamac. C'est la troisième visite de Chloé. Elle adore les chats, dit-elle, et en a deux à la maison. À une autre table, Clémence Fontaine a l'air crispée, mais pour une toute autre raison. Un chat sphinx. Vous savez ce que c'est qu'un chat sphinx?
Sans poils.
Oui. Sans poils, dénudé, avec les muscles qui paraissent tout. Là. Ouais. C'est très, très lisse. Ouais. Chat, oui. Un chat sphinx a sauté sur la table et reluque son milkshake. Ah. La maison s'est fait une spécialité des montagnes de crème, surtout sur ses desserts exotiques nommés, d'après les pensionnaires félins, délices doudou, délices mimi et autres. C'est la deuxième fois que Clémence visite le lieu. J'aime l'endroit, c'est douillet et j'adore les chats. La table en face est occupée par Pauline Delahaye, spécialiste en sémiotique animale à la Sorbonne. C'est pas n'importe qui. Je suis venu 4 ou 5 fois, raconte-t-elle. Les gens doivent parler doucement en raison des animaux. C'est assez calme pour travailler. On peut aussi manger, contrairement à la bibliothèque. Les recherches de Pauline Delahaye portent sur l'expression des émotions chez les animaux. Peut-elle nous dire à quoi pensent les chats? Elle dit, dans mon domaine, on dit que le chat est au comportementaliste, ce que l'ornithorynque est au biologiste. On sait qu'il existe, mais on ne sait pas comment il fonctionne. Ce qu'il pense, là, par exemple, celui-ci se dit « Vais-je arriver à rentrer dans ce petit sac, » rit-elle, alors qu'un gros matou tente de s'introduire dans son sac à main. Il y a des photos chats partout, et si le café évoque le Japon, ce n'est pas par hasard. Bien que le tout premier café à chats, le Café Flower Garden, est ouvert à Taïwan en 1998, c'est au Japon que le phénomène a vraiment pris de l'ampleur. Dans un pays où l'on n'a ni l'espace ni le temps d'avoir un animal de compagnie, passer un moment avec des chats dans un café est très attrayant. En moins d'une dizaine d'années, plus de 150 cafés de ce type ont ouvert leurs portes au Japon, dont plus de 40 à Tokyo. Le phénomène touche maintenant le reste du monde et de nouveaux établissements voient le jour presque chaque semaine, de la Nouvelle-Zélande à Washington, D.C., de Stockholm à la Saskatchewan. Et à Paris, bien sûr, sans parler du reste de l'Europe. En France, nous aimons les chats, explique Laurence Boer, gérante adjointe de Chat Malo's Café, qui existe depuis 2015. Ce sont des animaux relaxants et le lieu est idéal pour la détente. C'est bon pour les Français, ils sont très stressés, surtout à Paris. Elle évoque une théorie sur l'effet lénifiant qu'auraient les vibrations de ronronnement d'un chat sur les humains. C'est la ronron-thérapie. Oui. Le Chat Malo's Café n'est pas le premier café du genre à ouvrir dans la capitale française. Cet honneur revient au Café des Chats, ouvert dans le Marais en 2013 et qui a déménagé dans de nouveaux locaux à Bastille. Il a été fondé par Margot Gandelon, diplômée en sciences politiques et en relations internationales, qui souhaitait donner du sens à sa vie professionnelle et pour qui ses félins et la cuisine sont ses passions. Elle avait entendu parler des cafés à chats japonais, mais voulait que le sien tienne plus du restaurant que du café. Des plats sont servis sur place, la décoration est authentique, on se croirait dans une brasserie parisienne typique avec une douzaine de chats en plus. Le bien-être des félins est une priorité, tout comme le Chat Malo's Café, le café des chats, impose des règles strictes. Les clients doivent se désinfecter les mains à l'entrée et se plier à 3 règles fondamentales. Ne pas réveiller les chats qui dorment, ne pas les nourrir et ne pas les photographier avec un flash. Les chats sont sélectionnés pour leur sociabilité, mais une pièce leur est réservée afin qu'ils puissent s'isoler des clients. Il arrive que des chats ne se plaisent plus au café, on remarque un changement dans leur comportement et ils dorment beaucoup plus, explique Florent Lomé, le gérant. Le cas échéant, ils sont recueillis par un employé ou l'un des habitués du café. Une fois qu'ils font partie de la famille, il y a toujours quelqu'un pour veiller sur eux. Aujourd'hui, la troupe est occupée à amuser la galerie. On est venu ici parce qu'on adore les chats et on trouve le concept intéressant, raconte Majorie Richard, en visite à Paris avec sa fille. Elle déguste un café en compagnie d'un siamois. Cela incite à la conversation, c'est très agréable. C'est une autre particularité des cafés à chats. Ils rapprochent les gens. Comme Florent l'explique, on entend plein de langues différentes. Il y a des visiteurs du monde entier. Quand ils sont là, ils font tous partie de la même communauté. Tout le monde vient pour les chats. avec leur esprit de communion et leur ambiance respectueuse et feutrée. Pourrait-on dire que les cafés à chats ont des points en commun avec les églises? Peut-être, après tout, les Égyptiens adoraient une déesse féline. Demandez son avis à Yoda le Sphinx. Et si ça vous intéresse, il y en a à Montréal, il y en a un à Montréal, il y en a un à Québec. À Montréal, c'est le Café des Chats. Non, pardon, là, je suis rendu à Paris. Là. Ouais. Au Québec, on trouve des cafés félins. À Montréal, le Café Chaleureux. Et à Québec, Café Félin, ma langue au chat. Homer Café Félin.
Ah.
On ne parle pas de l'odeur, ça, ça dégage une certaine odeur, parfois, les chats.
J'espère que c'est contrôlé, quand même. Mais effectivement, c'est assez mignon, surtout pour la classe féminine, non?
Oui.
J'étais dans le sud une fois et les chats se promenaient à l'entour de la table, au buffet, et tout le monde les laissait faire, en fait.
Mm.
Oh, c'est assez spécial.
Mm? Ben, sauf si ça saute dans votre milkshake. Là,
ah, ça, c'est autre chose. Ouais. Et ça, ça prend un petit peu de crème fouettée, hein, comme on dit. On s'en va à une pause musicale et tout de suite après, je vous reviens avec la deuxième partie de mon texte qui parlait d'aorte.
C'est qu'on est mort. Quand on ne rit plus, c'est qu'on ne vit plus. Quand j'aurai coupé la ficelle, mettez-moi dans une poubelle. Laissez-moi pesanter un mois et de là. Jetez-moi au chat, qu'il refuse ma rate et mon foie, mais choisissez l'heure pour qu'il me mange le cœur. Que je reste encore avec vous, sur vos épaules et vos genoux. Que je sois, puisqu'il faut qu'on existe. Le chat du café des artistes. Et si le pain vient à manquer, je serai là, et n'hésitez pas. Brisez-moi les pattes et le cou, et puis mangez-moi, à même le chat. Ce ne sera pas la première fois qu'on aura mangé un artiste.
Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on vit plus, c'est qu'on vit plus. Quand il a coupé la ficelle, on a mis dans une poubelle. Comme ils oublieront ma tête et mes chansons, ce ne sera pas la dernière fois que l'on oubliera un artiste.
Thank you.
Extrait du mythique album Jaune, Jean-Pierre Ferland, parce qu'en 1970, c'était le chat du Café des artistes. Un petit lien facile avec l'article que Roger vient de nous lire.
Voilà. Moi, je poursuis la lecture de l'article de Alain de Boisdeboncœur, qui est médecin, et que j'ai retrouvé dans l'actualité. Et on parle que parmi les différents types de dissection, et je vous rappelle, la dissection, c'est la aorte, en fait, qui se déchire. Donc, c'est la conclusion de ça. Il dit que les plus graves touchent la partie ascendante de l'aorte, près du cœur, en effet, à ce niveau. Le sang qui pénètre dans la paroi de l'aorte peut refluer vers le cœur, compromettant la circulation des artères coronaires, qui on appelle aussi nourricières, provoquer une fuite de la valve aortique située à sa base ou envahir l'enveloppe du cœur, entraînant ce qu'on appelle une taponnade qui empêche le cœur de se remplir. Dans cette dissection de l'aorte ascendante, les artères carotides qui nourrissent le cerveau sont aussi fréquemment atteintes. Dans d'autres cas, c'est l'aorte descendante qui est touchée, ce qui est généralement moins grave, bien qu'on puisse observer des complications touchant les artères rénales ou encore les artères nourrissant les viscères. Des facteurs de risque, y en a-t-il? Ben oui, certains patients, notamment ceux qui font de l'hypertension, sont plus à risque que d'autres. Ceux qui souffrent d'une maladie génétique aussi, comme le syndrome de Marfan, qui rend les tissus élastiques et sont sujets à la rupture, ou encore qui ont un historique familial de maladie aortique. Une chirurgie de l'aorte, dont la paroi peut avoir été affaiblie, est aussi un facteur de risque. La présence d'un gonflement de l'aorte, appelé anévrisme, est aussi un facteur majeur de risque. Même si la plupart du temps, les dissections affectent les patients de 50 à 60 ans et davantage les hommes que les femmes, dans certains cas, surtout pour ceux qui souffrent d'anomalies génétiques, le drame survient tôt dans la vie, par exemple dans la trentaine. Est-ce que c'est un diagnostic difficile? Une des difficultés de diagnostic est que la douleur thoracique est en général une des causes les plus fréquentes de consultation à l'urgence. La proportion des dissections aortiques est extrêmement faible. J'avais déjà revisé les données à l'Institut de cardiologie de Montréal. Pour 23 980 patients consultants pour des douleurs thoraciques entre 2009 et 2014, on avait diagnostiqué 57 dissections aortiques, soit 0,2% des cas. Cette grande rareté rend le diagnostic ardu, d'autant plus que les symptômes sont variables. La personne peut simplement avoir perdu connaissance temporairement ou encore souffrir d'un AVC, sans avoir de douleur majeure. On sait que le diagnostic est manqué une fois sur deux lors de la première évaluation. C'est pourtant un des rares problèmes de santé où on peut vraiment dire que chaque minute compte parce que la mortalité est d'environ 1 à 2% par heure. La moitié des patients décèdent dans les deux premiers jours si rien n'est fait. Et la première chose à faire, c'est de trouver le problème. En plus des symptômes, certains indices cliniques peuvent orienter le médecin, comme une perte de certains pouls, entre autres ma patiente à qui c'est arrivé, des signes neurologiques lorsqu'il y a un AVC, ou un souffle de la valve aortique qui représente une fuite ou un reflux sanguin conséquent. Une radiographie pulmonaire va souvent montrer que le médecin qui contient l'aorte, le médiastin contient l'aorte, est augmenté de taille en raison de l'expansion du vaisseau dans cette cavité ou encore d'un saignement dans sa paroi. C'est le scanner qui permettra de diagnostiquer la dissection aortique. Cet outil est précis et disponible dans à peu près toutes les urgences. On injecte dans une veine du bras un colorant qui circule dans le cœur et se rend à l'aorte où des images sont ensuite prises. On peut observer au scanner le phénomène à la base de la dissection. Il s'agit d'une déchirure de la partie interne de l'aorte appelée intima où le sang s'engouffre, qui se répand ensuite dans le média, la partie musculaire de l'aorte, en formant un hématome. On observe aussi au scanner la création de ce qu'on appelle une fausse lumière, endroit où s'accumule du sang, mais qui ne présente habituellement pas de point de sortie. Le sang est contenu dans la paroi de l'artère et fait son chemin dans la paroi, disséquant progressivement le vaisseau. Le sang continue de circuler dans la vraie lumière qui peut être plus ou moins compromise, comprimé par la fausse lumière qui prend de l'expansion. En cas de rupture de cette fausse lumière ou de la paroi externe de l'aorte, il y a un segment massif et souvent fatal, à moins que le segment ne soit contenu par une structure externe. Est-ce que c'est urgent le traitement? Bien, le traitement de la dissection de l'aorte ascendante est la chirurgie qui est urgente et consiste à réparer la section de l'aorte perforée, à remplacer habituellement une section, à réimplanter les artères sans perdre les organes dépendants et parfois à réimplanter ou remplacer la valve aortique lorsqu'elle est touchée. Pour la dissection de l'aorte descendante, il y a deux options. Pour les cas qui représentent des complications, on peut implanter une immense endoprothèse. En fait, c'est ce qu'on appelle le stent aortique, semblable à celles qui sont placées dans les artères cardiaques, mais bien plus grosses, qui permet de découvrir la déchirure et de traiter la dissection. La pose peut s'accompagner de l'obstruction de certaines artères, de sorte qu'il y a parfois des complications. Pour les cas moins graves, un traitement médical, c'est-à-dire sans chirurgie, est souvent suffisant pour la dissection de l'aorte descendante. Il s'agit d'administrer des médicaments comme des bêta-bloqueurs qui ralentissent la vitesse et diminuent la force des battements cardiaques et des dérivés de la nitroglycérine de manière à baisser la tension artérielle et à attendre que l'aorte guérisse d'elle-même. Ces médicaments seront donnés immédiatement pour les dissections de l'aorte ascendante en attendant la chirurgie de manière à maintenir la plus basse pression possible et à limiter la progression de la dissection. On dit que dans bien des cas, la vie peut reprendre de son cours avec l'ajout de traitements préventifs visant à diminuer la pression pour éviter que d'autres sections de l'aorte soient éventuellement touchées. La seule bonne nouvelle dans toute cette histoire, eh bien, c'est que la majorité des patients vont survivre à une dissection aortique pour peu qu'ils consultent à temps, que le diagnostic soit fait rapidement. Jusqu'à la moitié des diagnostics sont manqués à la première évaluation, écrit-on, et qu'ils soient prestement traités. Alors, c'est très, très important si vous avez des douleurs, n'importe quoi. Donc, ça peut être un infarctus ou ça peut être n'importe quoi. On vous revient avec quelques brèves dans quelques instants. Roger, une petite brève.
Oui, l'enfer, c'est les autres, c'est le titre de ce texte. Selon un sondage mené par la Société de l'assurance automobile du Québec, 81% des Québécois considèrent que le manque de courtoisie sur la route est un problème important. Pourtant, 98% des gens sondés disent qu'ils sont généralement très ou assez courtois. Alors, l'enfer, c'est les autres.
Ben c'est, oui, c'est bien connu.
Oui, c'est fait. Merci, Franceline.
Oui, moi, c'est d'une oreille à l'autre. Mm-hmm. C'est le nom d'un nouveau service visant à donner un accès équitable à l'audition aux aînés à faible revenu, non couverts à 100% par une assurance publique ou privée. Sachant que 33% des gens de plus de 65 ans souffrent de surdité, cette initiative de l'Association des personnes avec une déficience de l'audition, l'APDA, s'avère d'autant plus utile. Avec l'aide d'audioprothésistes, l'APDA recycle des prothèses auditives pour les offrir gratuitement aux malentendants qui n'ont pas les moyens de s'en procurer, une première au Québec. Donc, si vous voulez de l'information, vous faites apda.ca.
Merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette émission, encore une fois très intéressante. Je vous invite à aller consulter notre site Internet au www.canalm.vusezvoix.com pour toute la programmation et en même temps pour aller voir l'heure à laquelle cette émission est diffusée. Restez à l'antenne. Il y a Hélène Denis qui arrive dans quelques instants avec son émission « Le quotidien des quotidiens ». On remercie Jean-Sébastien Laliberté pour la technique. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup, Franceline.
À la prochaine fois.
On vous souhaite une excellente semaine.